Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Bonsoir, kia ora, good evening. Vous êtes bien sûr Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles d'Auckland, avec ce soir... qui on a dans le studio? Virginie.
Virginie, oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Virginie aux rubriques et aux manettes de la régie technique, on a
Stéphane.
Stéphane Legrand.
Bonsoir.
Bonsoir Stéphane. Et bonne fête à toi Stéphane, parce que ouais. Je crois qu'aujourd'hui c'est
la fête nationale belge.
Une
semaine après la française.
Et oui. Et on a une surprise qui nous arrive dans le studio.
Et nous avons notre ami David,
David
qui vient nous rejoindre. Fantastique.
C'est magnifique.
Bonsoir, bonsoir.
On est content de te voir.
On va être beaucoup ce soir, ce qui est très bien. Ça nous arrive pas souvent et c'est très bien.
On va juste passer de la musique.
Bon, on va peut-être pas juste passer de la musique, mais par contre, on aimerait bien commencer par une petite musique.
Tout à fait.
Une petite musique bretonne.
Comme ça, on laisse le temps à David de s'installer, et puis on revient vers nos auditeurs.
Allez, c'est parti. Triane, la jument de Michao.
C'est l'an 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est l'an 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est l'an 9 ans, je m'en irai, la jument de Michao a passé dans le pré. La jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
La jument de Michao et son petit poulain a passer dans le pré, manger tout le
pain. L'hiver viendra, l'hiver viendra, la jument de Michao, elle s'en repentira.
L'hiver viendra, l'hiver viendra, la jument de Michao, elle s'en repentira.
Virginie, C'est pas magnifique, ça?
Ah si, ben, moi j'aime beaucoup. Visiblement, on est 55 ans dans le studio. Nous, on aime bien.
Moi, j'aime bien aussi,
Ah d'accord, donc 3 et David
Si, si, très bon, ça me rappelle des souvenirs aussi.
D'accord, ben voilà, donc on est tous...
La Normandie et la Bretagne, même combat.
Voilà. Les années étudiantes, fantastique. Là, David, on va se partager,
Le micro.
Oui, d'accord.
C'est très romantique.
Ouais, carrément, ouais. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de parler de romans fantastiques.
De romans.
De littérature fantastique.
Il y a beaucoup de choses à dire sur Romain.
Bonjour Romain, si tu nous écoutes. Oui, en fait, je me suis rendu compte il y a quelques semaines de ça. Il y a eu la dernière saison de Game of Thrones qui est passée.
Oui, et nous n'allons surtout pas en parler.
Non,
pour,
on n'en
pour
parle
ceux
pas.
Qui n'ont pas encore vu la dernière saison.
Ça s'appelle comment en français
Ça s'appelle le trône de fer.
Alors le trône de fer,
moi,
c'est le titre.
Moi, j'ai vu aucune des saisons.
Et moi, je n'ai jamais vu un seul épisode.
Voilà, pareil.
Honte sur vous. Vous avez vu, vous avez lu les livres au moins?
Rien du tout.
Honte à vous.
J'arrive pas à passer les 5 premières minutes du premier épisode.
Alors, moi, j'ai même pas essayé.
Le premier épisode, c'est à la limite, j'aurais tendance à dire, je l'ai revu l'autre jour et je me suis dit, en fait, même moi, j'arrive pas à comprendre les premières 5 minutes, donc alors, j'aurais tendance à dire, passe le premier épisode.
C'est pas le meilleur, ouais.
Non, ça lui rend pas justice à cette série.
C'est un peu comme le bon vin français, tu sais, au début, voilà, hein,
vous voyez, c'est. Faut laisser respirer,
voilà,
quoi.
Voilà, exactement. Et plus ça vieillit. Mieux c'est.
Ouais, tout à fait d'accord.
Voilà.
Donc non, j'aurais tendance à dire, il faudrait passer le premier épisode et à partir du deuxième, là, ça devient intéressant.
Alors, on va pas en parler aujourd'hui parce que voilà, par souci de pas spoiler, comme on dit. Mais par contre, je me suis rendu compte que entre voilà les 20 dernières années, on va dire la fantasy, elle est revenue en force, mais à fond quoi. Et quand j'étais gamine dans les années 80, c'était vraiment le sujet au cinéma. On avait des films comme Willow,
je me souviens de Willow.
Ouais, Willow de Ron Howard. Ouais. On avait. À ce sujet, vous savez il est question qu'il fasse une série télé. Ron Howard qui reprend le personnage de Willow et qui fasse en fait la vie de Willow
monsieur
of Good
Amazon, monsieur Netflix,
à la télé.
Un autre qui va faire.
Je ne sais pas ça.
Il
je
va
peux
falloir
pas
que je le regarde parce que je ne me souviendrai rien.
Willow, c'est un film de 1988. C'est avec Warwick Davis.
Mais c'est un bouquin d'abord, non?
Alors ça, je ne sais pas. Là, tu me poses une colle. J'ai toujours pensé.
Je vais chercher en silence.
Recherche en silence. Il y avait aussi Dark Crystal en 1982.
Ah, Dark
Crystal. Ouais,
j'ai
voilà.
Le DVD.
Ah bah alors quand même.
Moi je crois que j'ai encore la VHS mais c'est
de la science.
Alors ça c'est digne d'un musée.
Ce qui est triste c'est que je peux pas du coup je peux plus le regarder quoi.
Oh mais je pense il y a tellement de il y a une base de fans de Dark Crystal, je pense que ça doit pas être trop difficile de le trouver en j'allais dire en DVD
en
mais
solde,
bon là je suis un peu
has-been.
Non, non, mais tu le trouves.
Tu peux le trouver en ligne.
Oui, oui, absolument.
Ouais, ouais. Je peux te le prêter si tu veux.
Non, non, mais j'ai même pas de lecteur DVD, moi.
Ah, bah,
zut. Je suis tout en MP3 maintenant.
Tu peux venir le voir chez nous.
D'accord, ben merci. Hein, je réponds à l'invitation.
Alors, puisque on est dans les souvenirs là, est-ce que un film de 1984 de Wolfgang Petersen, ça vous dit quelque chose, tiré d'un livre d'un Allemand qui s'appelle Michael Andy? L'histoire sans fin.
Ah, j'ai pas vu ça.
Numéro 1, 2 et 3.
Dit quelque chose, hein.
Oui, mais 1 et 2, c'est. J'ai pas vu le troisième, mais 1 et 2, très bien.
Je les ai aussi en VHS ou un truc comme ça à la maison.
Ça a fait l'enfance de tout le monde, quoi.
Ils avaient sorti la VHS avec
l'histoire
les deux films.
Fin.
Oui, l'histoire
de. La musique a mal vieilli quand même.
Ah oh, non, c'est pas vrai.
Un petit peu.
Bon, elle est signée années 80, c'est sûr.
Ouais.
Et d'ailleurs, je voulais la passer, mais je l'ai pas trouvée. Sur Spotify.
Ah, elle est sur YouTube.
Oui, elle est sur YouTube, mais il y a des pubs.
Ah, bon,
je veux pas des pubs.
Grave, on va
éviter de chanter. Hein,
bon, un autre film de 1986 avec David Bowie et Jennifer Connelly.
Ah, ça je sais. C'est pas Labyrinthe.
C'est Labyrinthe. Non, mais vous souveniez de Jennifer Connelly dans ce film?
J'ai jamais entendu ce nom. Moi.
Non, je me souviens de.
Elle était une petite brune.
C'était une gamine, quoi. Elle devait avoir 14 ans.
Peut-être. C'est l'un de ses premiers films.
Oui, ouais. Et elle est devenue quand même une actrice assez importante.
J'ai jamais entendu parler.
Si, tu l'as peut-être vu dans un film sur les maths et un scientifique qui a découvert je sais pas quoi et qui est tombé un peu fou avec l'Australien d'à côté là, qui a des gros muscles. comment il s'appelle l'Australien qui a des, Russell Crowe, qui est kiwi de Wellington, mais australien. Et elle, et il joue quoi? C'est quoi le film? C'est
Titre. C'est genre, un esprit.
A Bright Mind.
Beautiful Mind.
Voilà. Avec Robin Williams.
Non, ça c'est Will Hunting. Good Will Hunting.
Ah, oui, ok. Oui, celui-là dont on parle, en fait, il est.
Oui,
il est super intelligent. Et c'était quoi son problème? Il était, il avait un ami imaginaire ou des amis imaginaires. Il était schizophrène, c'est ça?
Oui, il était schizophrène.
C'est une histoire vraie, hein, je crois.
Oui, c'est une histoire vraie. Bon, revenons à nos moutons.
Donc, t'as vu ce film-là?
Ouais.
Donc, c'est elle qui joue la femme.
Je me rappelle pas qu'il y avait une femme.
Bah, si, c'est sa femme dans le film.
Bah non, lui, il regardait pour les maths.
Bah oui, c'est ça.
Bah ouais. Il regardait pas pour la femme.
Génie, s'il te plaît.
Mais c'est parce que les maths avaient de belles courbes.
Elle est bonne.
Je me dis, Steph, tu te chopes la réputation du geek de base, quoi. Parce que j'aime bien les maths, mais
je connais jamais le nom des acteurs dans tous les films que je regarde.
Attends, est-ce que t'as vu le film sur les Afro-Américaines qu'ont fait décoller la NASA?
Mais oui. Hidden Figures.
Ah, les femmes de la NASA.
Les femmes de l'ombre.
Tu l'as vu?
Ça j'ai vu. Ouais.
Et c'est fantastique dans ce film. Elle s'appelle des comment ils les appellent, les computers.
Ouais,
c'est comme ça qu'ils les
appellent.
Oui, c'est ça, les computers.
Elle faisait tous les calculs à la main. Ouais.
Ouais. Ça c'est extraordinaire à regarder. Je me dis mais. L'intelligence de ces femmes.
Bon, on a glissé vers les histoires vraies.
Ouais, mais on parlait de l'imaginaire et de la science-fiction.
On revient vers, non pas la science-fiction, le fantastique. La littérature fantastique. Et donc tous ces films dont on vient de parler, là, c'était des films qui ont fait fureur dans les années 80. Et puis dans les années 90, le genre heroic fantasy est tombé complètement en désuétude jusqu'à ce que Peter Jackson nous offre au monde Le Seigneur des Anneaux.
Mais attention, parce que t'as pas parlé du Dark Crystal.
Si, elle a parlé.
Si, t'as parlé.
Mais tu dormais ou quoi?
Je dormais, désolé.
C'est vrai, je
si
l'ai mentionné.
Parlé, j'ai même dit que j'avais le DVD.
Oui, c'est vrai.
Virginie pourrait bien le voir chez moi. Si, Dark Crystal, on en a parlé.
Et donc, bon, comme tout le monde sait ou ne sait pas, Le Seigneur des Anneaux s'est tiré d'un roman.
Bah oui, quand même. Hein.
De Tolkien. À ce sujet, il y a un film qui vient de sortir en Grande-Bretagne sur Tolkien, qui s'appelle, je vous le donne en mille, Tolkien. Voilà.
Il y a eu un dessin animé du Seigneur des Anneaux.
Exact.
Ils ont fait que la moitié, ils n'ont jamais fini.
Exact, oui, qui a eu un succès
colorié
très
à la main.
Mitigé.
Ah, moi, je me souviens, j'avais super bien aimé, mais j'étais petit. Hein.
Moi aussi, ouais.
Et puis,
ouais.
J'ai toujours attendu la suite et elle est jamais
arrivée. J'ai toujours la VHS d'ailleurs, pareil.
J'ai téléchargé en MP3. Moi, j'ai la version,
ah ouais, tu l'as trouvé. Ah oui, d'accord.
Moi, j'avais la BD du Hobbit. Bien avant le film, c'est une BD des années 80 aussi.
Moi j'aime bien ce dessin animé, je sais pas pourquoi les gens ont tellement critiqué.
Il s'est caché un peu du livre,
mais en une heure et demie, il faisait la moitié du truc.
Je trouve que c'était quand même assez osé pour l'époque, en fait, parce qu'ils avaient mélangé dessin animé et des acteurs réels, qui étaient quand même bien avant
Roger
Rabbit qui l'a fait.
Il y avait Mary Poppins qui avait déjà fait ça les années 60.
C'est vrai, il y avait Mary Poppins.
La critique, c'était qu'il s'éloignait du livre. Mais moi, j'étais petit, j'avais pas lu le livre et j'ai trouvé ça super, quoi.
Non, ouais, moi aussi, j'avais bien aimé, ouais, sur le moment, ouais. Ouais. Alors, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, tout le monde connaît. Ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, ou en tout cas n'ont jamais lu, ou ne connaissent que de nom, c'est le Silmarillion.
Moi, je l'ai lu.
Ah, tu l'as lu, moi, c'est mon livre préféré.
Deux fois.
J'ai jamais pu le lire. C'est un peu comme Game of Thrones, j'ai commencé, j'ai pas fini.
Le premier chapitre, il faut être motivé.
Ouais, c'est ça, voilà.
Le chant des Ainur qui crée le monde à travers leur harmonie. Là.
Mais c'est magnifique. J'étais adulte,
quand
je l'ai lu.
Quand jeune, ça passe au-dessus de la tête.
Ouais, je pense, ouais. C'est un livre qu'il faut lire quand
David
on est jeune.
Il y a torse nu dans le studio.
Désolé, les filles.
Par accident. Je trouve que cette émission, elle part en autre boudin tout de suite.
Oh, tu me prends pour un boudin.
Musique.
C'est vachement sympa.
Non, c'est des par accident. On va juste expliquer. Hein.
Il fait chaud dans le sud.
Il a enlevé son pull et tout est parti.
Et voilà.
Mais c'est vrai, on est juste pour donner un conseil. C'est vrai qu'on est quatre dans un tout petit studio aujourd'hui. Donc là, c'est vrai que la température monte.
En fait.
Oui, c'est très intime.
On a un micro pour quatre aussi.
Oh non, ça c'est pas vrai. Bon, le Silmarillion.
Le Silmarillion.
Le Silmarillion. David, arrête, s'il te plaît.
Fabuleux, le Silmarillion. Mais il y a une partie qui est écrite par le fils de Tolkien.
Il a été terminé
oui,
par
a,
le
il
fils
a pris
de Tolkien.
Les
oui, c'était des textes
ouais.
qui n'étaient pas. En fait, le Silmarillion, c'est une œuvre posthume. Ouais. Il n'a
oui,
jamais été publié.
Fini, en fait,
non, il n'était pas fini. Comme les contes et légendes inachevés, qui étaient en fait à l'état de brouillon.
Inachevés.
Inachevés, exactement. Et c'est, je ne sais plus lequel de ses fils, je crois que c'est Christopher Tolkien, ouais, qui a repris ses. Les manuscrits de son père et qui les a publiés post-mortem.
Mais c'est vrai
fait.
Que le début, c'est difficile de rentrer dedans. Par contre, là, après, c'est beaucoup plus proche de, du Hobbit Seigneur des Anneaux avec les Silmarils, les
voilà.
etc.
Ouais, il y a quand même de très très belles histoires. Il y a l'histoire de Beren et Lúthien dedans qui est. Alors, Lúthien, c'est l'arrière-grand-mère d'Elrond. Si je ne me trompe pas.
Oh,
voilà. Donc après voilà, c'est toute une histoire de généalogie ouais. de voilà qui ouais. est le fils de
mais ça
qui.
Fait du même
mais ça
que,
fait partie du monde.
C'est l'époque où ils appellent ça l'âge.
C'est voilà.
le
Hobbit,
deuxième
encore.
Âge.
C'est bien
et
avant
le Hobbit, c'est dans le troisième
ouais.
âge.
Ah, ouais. Ça voilà, le Silmarillion en fait c'est le premier âge et après dans les contes et légendes inachevées on se retrouve pardon il y a aussi le deuxième âge dans ouais, le dans le Silmarillion avec la submersion de Numenor. À ce sujet. Saviez-vous que la série télé Le Seigneur des Anneaux...
Ah bon, il y a une série télé
ça, oui, ça commence bientôt. Hein. Vous avez déjà commencé?
Non, ça va commencer. Ah, ils vont commencer comme... le tournage en Nouvelle-Zélande.
C'est qui fait ça?
C'est Amazon. Voilà, alors bon, c'est
pas
encore...
avec Peter Jackson.
Non, 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 Peter Jackson n'a rien à voir.
Mais... J'ai comme cette impression que ça ne va pas marcher.
Eh ben, on attend de voir.
Mais c'est la suite?
Non.
Ou c'est la même histoire
alors,
en série télé?
D'après ce que j'ai vu, c'est ça va se faire sur 5 saisons. Et je pense qu'ils veulent simplement faire le nouveau Game of Thrones, en fait, pour la télé.
Mais quelle erreur, quelle
mais
erreur.
Ils vont imaginer
ils
des choses
pas.
Avec le monde.
Non, alors, au départ, il était question de faire, d'inventer complètement une nouvelle histoire sur la jeunesse d'Aragorn. Et finalement, ils ont changé d'avis. Et d'après ce que j'ai compris, la première saison va se centrer sur le deuxième âge et la submersion de Numenor.
Donc,
en fait, ça va être l'histoire des ancêtres d'Aragorn avant qu'ils arrivent sur la Terre du Milieu. Ou disons sur le grand continent d'Arda, quoi. Voilà. Alors, Virginie a une quinte de tout.
Ça commence quand,
dans les semaines ou les mois qui viennent. Dans les mois plutôt qui viennent, je pense.
On est le 21 juillet.
Oui, non, d'accord. Non, mais c'est pas prévu avant. C'est en...
Ils en parlent beaucoup, mais c'est pas à la télé.
Je crois que c'est encore en pré-production.
Ouais.
C'est pas encore tourné. Ils ont même pas les acteurs, encore. Rien du tout.
Ah, oh, ok.
Quand on regarde sur la fiche, vous savez, le IMDB, là
mm-hmm.
Ouais. Il y a quasiment rien encore. Hein. Il est prévu.
S'il y avait des acteurs d'alignés.
Ah, ça y est.
Je sais pas s'ils ont été signés, mais il y avait des noms.
Qui avaient été lancés, ouais.
Je crois, hein.
Peut-être.
Faudra regarder.
En tout cas, bon, en ce qui concerne les romans de Tolkien, il y a. Bon, tout est accessible. Bon, tout pour les fans. Pour ceux qui sont plutôt intéressés par le monde du Seigneur des Anneaux, ben, les trois tomes du Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Si vous voulez en savoir plus.
Le Hobbit, c'est aussi pour à partir de 9-10 ans.
Et le
pour
Hobbit,
les enfants, hein.
C'est, voilà, pour les enfants. De même qu'un autre, une autre nouvelle que Tolkien a écrite qui s'appelle Roverandom. Et qui ne se déroule absolument pas dans le même monde que dans la Terre du Milieu. Ça se passe en Angleterre et c'est l'histoire d'un petit chien, Rover, qui, pour avoir été très impoli envers un magicien, se retrouve transformé en jouet. Et il va parcourir le monde, il va se retrouver sur la Lune, il va chercher au fond des océans pour retrouver le magicien, pour que le magicien lui rende sa forme canine, on va dire, sa forme vivante. Et c'est une très jolie petite histoire pour les enfants.
Comment ça s'appelle ?
Roverandom. Roverandom.
Ouais. Voilà. J'ai entendu parler.
Alors, est-ce que c'est beaucoup de l'anglais ou américain? Est-ce qu'il y a du fantastique à la française?
Du fantastique à la française, eh ben personnellement.
Des auteurs français ou des films français?
Personnellement, je n'en connais pas. Mais c'est qui Jean Rey?
Tu connais pas Jean Rey?
Ben non, je connais pas Jean Rey.
Ben, c'est un auteur fantastique assez
francophone.
Francophone, oui, je pense. À moins que je sois complètement à côté de la plaque. Hein. Je vais faire une recherche.
Non, on fait une recherche.
C'est quoi ces titres? C'est quoi le...
Écoute, j'ai lu ça quand j'avais 15 ans et je me souviendrai.
R-A-Y?
Ouais, R-A-Y quand même.
Et bon, alors pour terminer avec Tolkien... Pour terminer avec Tolkien avant de passer à Jean Rey...
Il est belge.
Il est belge. Incroyable. Alors attends, mais juste voilà, une minute, Stéphane.
Il est pas connu en dehors de Belgique, c'est ça.
Pour en revenir, pour terminer avec Tolkien, juste avant de parler de genre, il y a aussi un livre qui a été traduit en anglais pour la première fois par Tolkien. Ça s'appelle Beowulf, et c'est une légende nordique. C'est extraordinaire avec un dragon.
En fait, Beowulf, le problème, c'est que... Ah, c'est pas un problème. C'est comme c'est une légende nordique, t'as 40 millions de bouquins sur Beowulf, donc tu sais pas qui a l'autorité là-dessus.
Oui, mais la première version anglaise a été traduite par Tolkien.
Ah bah voilà.
Voilà. Et c'est le roman de base dont il était totalement fan quand il était jeune, qui l'a influencé et qui l'a inspiré pour toute la création du monde du Seigneur des Anneaux. Alors, on se fait une petite musique ou tu veux nous parler de genre
Vas-y, fais la musique, comme ça je peux un peu réchauffer ma console.
Non, mais en fait, il est confus. En fait, il parle de Jean Reno, mais il le sait pas.
Non, Jean Ray, écrivain belge, né en 1887.
Alors, chers auditeurs, on va vous mettre une petite musique. Je vais essayer de calmer mes partenaires de studio. Stéphane, tu es prêt?
T'as choisi.
J'ai choisi une autre musique celtique, Mano, la tribu de Dana.
Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel pour le courage. Pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Dana. Incantation de druides et de magie, toute attribue le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible et je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Dana. On entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et car la tribu de Dana appartenait à ces terres. Les guerriers repartaient et je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Dana, 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 Dana.
Dana.
on se fait mais une de ces fêtes dans le studio là ce soir.
C'est bah oui, David a déjà enlevé son t-shirt, c'est bon. Ouais.
C'est et on fait tomber la chemise. Allez Stéphane, tu nous parles un peu de Jean
Rey que personne n'a entendu parler.
Bah non.
Si, donc, c'est un écrivain, c'est un écrivain belge. Parle bien devant le micro, David. C'est un écrivain belge. Il est donc il a écrit dans autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est les romans les plus connus que moi j'ai lu, c'est Le Grand Nocturne, Les Cercles de l'Épouvante, des Malpertuis, qui est sans doute le plus connu. Mm-hmm. Et donc il est considéré comme un des maîtres du fantastique. Et donc c'est beaucoup de romans qui impliquent des créatures, des histoires de fantômes, des créatures de l'au-delà, le fait que les dieux existent. Et donc voilà, il a été influencé par Dickens aussi.
Comment tu appelles Jean Rey?
Lovecraft aussi.
Lovecraft.
R-A-Y. En fait, c'est un pseudonyme. Il s'appelle comment? Raymond Jean-Marie de Crémer.
D'accord.
Et donc, il a écrit en français et en flamand sous deux noms différents. Jean Rey en français, John Flanders en flamand.
Et c'est un livre que tu recommanderais à partir de quel âge? Enfin, des livres.
Bon, à partir de 12-14 ans, je dirais.
12-14 ans. Donc
moi, c'est ma grand-mère qui me l'a recommandé.
Ouais.
Donc elle avait lu ça quand elle était...
Mais ça, c'est bien à savoir, ouais, parce que les grands maîtres, on va dire, de l'heroic fantasy, c'est pas des Français, en général.
C'est pour ça que je disais, c'est surtout anglophone. Oui. Ouais. Bah, les Anglais d'abord, puis les Ricains plus modernes, mais... Ouais.
L'histoire sans fin,
parce
que
l'hiver est trop dur en Angleterre, il faut s'imaginer des trucs.
Il est influencé aussi les Bob Moran là, de Henry Verne.
Oui, oui.
Donc voilà, c'est du fantastique, donc des années 40 cette fois-ci, plutôt que les Willow et compagnie, c'était
les années 80. Oui, les années 80, oui. Alors, encore de la littérature fantastique pour les enfants, c'est le grand copain de Tolkien qui s'appelait Clive Staples Lewis.
J'ai jamais entendu parler.
C.S. Lewis.
C.S. Lewis. Si tu dis C.S. Lewis, ça va.
Et oui.
Parce que c'est son nom entier, il n'est jamais écrit sur la couverture.
Non, et personne ne le connaît sous ce nom-là. Mais c'est ce monsieur qui a apporté au monde les chroniques de Narnia.
Ah ouais.
Et oui.
Ouais, depuis, je regarde ma commode avec un air différent.
Ah bah, à chaque fois que je me retrouve devant une vieille armoire, je peux pas m'empêcher de l'ouvrir et de m'imaginer.
Ah ouais, moi aussi, ouais. Je rentre dedans.
Ah mais carrément.
Elles ont été traumatisées les filles.
Ah, moi j'ai jamais vu, donc je sais pas ce qui se passe dans la commode.
Alors, tu sais pas ce qui se passe dans la commode. Alors oui, il faut regarder, les films sont très bien faits,
ils
je trouve.
Ils ont été faits en Nouvelle-Zélande aussi.
Exactement, oui, ils ont été tournés à Cathedral Cove, une grande partie, ouais.
Ah ouais, ouais. D'accord.
La plage de Narnia, c'est Cathedral Cove, ouais.
D'accord.
Encore mon aile.
Dans le genre... comment il s'appelle lui, dessinateur de BD fantastique futuriste, Enki Bilal,
oui. Ouais. Ça c'est plutôt science-fiction, non que...
Oui, j'aurais tendance à dire ça.
Ouais, peut-être. Ouais.
Ouais. Par contre, dans la BD, moi j'ai marqué, je trouve que c'est, pardon, je suis pas devant le micro, je trouve qu'il y a une BD fantastique qui me fait énormément rire, c'est Troll de Troyes.
Ah ouais. Et Landfest, oui.
Et Landfest, bien sûr. Ouais. Landfest de Troyes, Landfest des Étoiles, qui est après plus science-fiction. Mais ouais. J'ai aussi trouvé.
Ouais, Landfest, c'est tordant de rire. Hein.
Ah, c'est. Ouais.
Et les trolls, c'est un peu différent, mais c'est vrai que c'est.
Ah, c'est. Fabuleux, quoi. Ouais. C'est complètement farfelu.
Incroyable.
Complètement farfelu. Et malgré tout, on retrouve une composante très moderne dans les histoires, ouais.
Parce que ça plaît à la fois aux enfants et aux adultes.
Et aux adultes. Ouais. Et ce genre d'histoire. Qu'on peut lire à différents niveaux. Ouais. En fait, un enfant comprendra d'une certaine façon, les adultes le comprendront d'autre façon.
Les dessins sont super détaillés.
Oui,
attention aux dessins, il y a plein de
détails. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un détail qui va te faire mourir de rire dans un coin. Ouais. Il y a aussi une autre BD que j'adore et j'ai trouvé pas mal de... pas nécessairement dans chaque tome, mais une bonne composante fantastique, c'est Torgal.
Ah ouais.
Oui, il est un grand classique.
Rosinski.
Ouais. Rosinski.
Oui, puis c'est Evan Hamm, ouais. Début des années 80. Je suis en train de chercher le titre. C'est pas la chronique de l'oiseau perdu, l'oiseau du temps. C'est le tendre, hein, c'est ça.
L'oiselle et le temps.
L'oiselle et le temps. Et c'est
l'oiseau du temps.
Zut. Je l'ai à la maison. C'est en 5 tomes. Et ils ont fait une suite il y a 4-5 ans. Mais ça, c'est les années 80 aussi. Mais c'est du fantastique.
C'est une bande dessinée.
Ouais. 5 tomes.
La quête de l'oiseau du temps.
La quête de l'oiseau du temps.
Bien, ouais.
Mais en tout cas, pour tout ce qui est les chroniques de Narnia, ça c'est en fait bon. Alors puisque Stéphane ne connaît pas, c'est l'histoire de quatre enfants en fait qui sont envoyés chez leur oncle à la campagne en Angleterre pour échapper aux attaques de l'armée allemande sur Londres. Et ils vont donc se retrouver dans un domaine immense. L'oncle ne s'occupe pas d'eux en fait. Hein, ils sont livrés à eux-mêmes toute la journée. Et dans le château immense, ils vont finir par trouver dans une chambre une armoire. Qui, quand ils vont rentrer dans l'armoire, cette armoire va les transporter dans un autre monde.
Une armoire magique.
Une armoire magique. D'où le titre du premier tome.
Voilà.
Le lion, la sorcière.
Et l'armoire magique.
Et l'armoire magique.
Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et oui, en fait, c'est tout ça. Le premier rentre dedans, et puis je sais plus, ça fait tellement longtemps, mais ils arrivent pas tous les quatre en même temps. Il y en a un qui part en premier, après ils cherchent, et puis ils finissent tous par avoir cette histoire dans le monde magique de Narnia.
Voilà, et ils se retrouvent en fait investis d'une mission dans ce monde, c'est de débarrasser le monde de la sorcière blanche qui a gelé le monde de Narnia dans un hiver permanent. Et donc ça c'est l'histoire du premier tome et puis après bon il y a le deuxième, le troisième, je crois qu'il y en a même deux autres après.
Comment il s'appelle le lion ?
Je sais Aslan.
Plus. Aslan. C'est ça.
Aslan, ouais. Qui est un très beau caractère, un très beau personnage, pardon.
Une autre BD avant Thorgal, je crois que c'est avant, et c'est par le même monsieur Rosinski. C'est le Schinickel ou le grand Schinickel.
Le grand pouvoir du Schinickel.
Le grand pouvoir du Schinickel. Très très bon. Et ça c'est du fantasy. Hein, c'est du fantasy. Ouais. C'est noir et blanc. Je crois il a peut-être coloré depuis, mais c'est noir et blanc. C'est énorme comme BD. C'est bah pareil, c'est les fin 70, début 80. J'imagine. Je suis en train de chercher, mais j'ai du mal à taper l'écriture parce que c'est écrit avec 50 consonnes et deux voyelles.
C'est placé dans une civilisation qui serait avant l'humanité, quoi. Il y a un lien au divin aussi.
Tu te rappelles comment ça s'appelle, le Schinickel?
Le grand pouvoir du Schinickel. Ouais.
Ça, j'ai jamais entendu parler de celui-là.
Mais c'est un one-off de l'auteur de Thorgal.
Oui, c'est un one-off. Ouais.
C'est un volume assez épais, quoi. C'est genre 150 pages.
Il a écrit et réalisé, il a tout fait là.
Et les dessins et le scénario.
Mm-hmm.
Oui, parce qu'il est au dessin dans Thorgal. Ouais. Rosinski. C'est Jean Van Hamme le scénariste. Ouais. Ouais. On se fait une petite musique et puis on va revenir après Alors, je voudrais vous parler d'un roman fantastique exceptionnel américain et on va aussi parler de fantasy japonaise.
Attends, ici, il est mis Le Grand Pouvoir du Schinickel est une bande dessinée de Jean Van Hamme et Rosinski.
Ah, ils travaillaient ensemble, oui.
Initialement publié par épisode dans la revue À Suivre en 86, puis en un tome noir et blanc, avant d'être republié en trois volumes coloriés. Donc, fin des années 80. Très bon, on l'a à la maison pour ceux qui veulent l'emprunter.
Mais j'ai pareil. Ouais. C'est très bon.
Allez, on va rester un peu dans le celtique. Jan Tiersen, I've Never Been There. Et c'est un film que vous allez peut-être reconnaître.
Poulain.
C'est Amélie Poulain. Bon, ce n'est pas du tout un film fantastique, mais la musique, je trouve qu'elle se prête bien au...
Ah, si, c'est un peu fantastique, parce qu'ils arrivent à faire passer Paris pour une ville magnifique. Donc c'est forcément fantastique.
Si Blandine était là, elle t'expliquerait que c'est une ville magnifique.
Non, mais c'est le seul film où tu arrives à voir Paris sans les tags, sans les poubelles. Voilà, c'est un Paris de carte postale. Donc c'est un film fantastique.
Pour dans Heroic Fantasy, fantastique, à la française, franco-belge, l'épée de cristal, c'est par Goupil, Jackie Goupil, au scénario, les dessins, c'est Chris, et il y a 5 tomes dans la première version, et c'est, par contre, c'est la fin 80, c'est 89 le premier volume.
Alors là, je découvre des choses.
Il y a, comment il s'appelait, l'espèce de Gugus qui débarque dans un royaume parallèle T'as Taylor,
un Gugus qui débarque dans un royaume parallèle.
Taylor.
Ah ben avec ça.
Royaume de Taylor. Taylor.
Tu appelles ça comment?
T-A-I-D-O-R.
Alors Gugus.
Le masque de Taylor et il y en a 5 après. Ouais.
C'est par qui? C'est qui a fait ça?
Écoute,
Sarah. Tu les as à la maison aussi?
Ouais, ouais, tout à fait. Sarah va nous parler d'un truc.
Sarah, c'est pardon, désolé ça.
Ouais, j'ai la peur.
Mais entre la famille belge qui ramène tous les BD quand ils rentrent en Europe et toi, David, mais ça doit vous coûter un fric fou de ramener tout ça dans un avion.
Ouais, ça pèse lourd.
Parce que ouais, les bouquins, ça pèse super lourd.
J'ai mes 24 cartons qui sont venus par bateau.
87, et donc c'est Serrano, les dessins et scénario Rodolphe et le Tendre.
Bravo! Je connais, mais j'ai pas du tout.
Fin 80,
de taille d'or. J'ai pas lu.
Bah, tu peux l'emprunter.
Jamais entendu parler. En tout cas, l'illustration est très belle.
Bouquin, parce que il disait, y a des gens qui lui empruntent des DVD qui rendent que la boîte.
On a un très bon deal. On fait nos photos de
ouais,
nos bouquins.
Quand je crois qu'on prête.
Ça date de quand, ça, Stéphane?
80, c'est fin des années 80.
Ah ouais. Ouais,
et donc c'est l'histoire de. Il y a un monde parallèle fantastique. Et alors il y a un problème dans ce monde. Et ils ont besoin de. Je crois que le roi est devenu fou. Et alors ils vont dans le monde réel chercher quelqu'un qui est le sosie du roi.
Il y a eu un copycat parce que 10 ans plus tard, dans les années 80, Rossi, Le Tendre et Rossi ont fait une histoire qui s'appelle. C'est un truc à rallonge aussi. Il y a 10 tomes, je crois, maintenant.
La balade au bout du monde.
Balade au bout du monde. Parce que ça, c'est un peu le même genre. C'est
ouais,
un mec qui
un
est dans le temps,
ouais.
temps moderne qui revient. Et ça doit être la même époque, peut-être années 90, je sais pas.
La balade au bout du monde, il n'y a pas vraiment de fantasy. C'est plus qu'il y a.
Bah, si, il va dans un royaume, il épouse la princesse,
c'est
machin.
À une époque, des gens de l'époque médiévale qui se sont cachés au milieu d'un marécage et qui ont resté à l'époque médiévale alors que le monde a continué à évoluer.
Ouais. Oh, c'est un peu comme la Nouvelle-Zélande, quoi.
Ouais, ouais. Voilà,
c'est vrai. C'est Macchio et Vicomte, c'est pas voilà, Macchio.
Alors par contre là maintenant vous me faites penser, oui effectivement je connais un roman d'heroic fantasy qui n'est pas français mais qui est canadien-français, ça s'appelle Les Chevaliers d'Émeraude et c'est écrit par une dame qui s'appelle Anne Robillard. C'est plutôt pour ados, hein, les adultes je pense qu'ils trouveraient ça un peu lourd, ouais. Mais pour les ados et à partir de 12 ans, ouais, 12-17 ans. C'est une très belle série aussi, ouais. Ouais. Beaucoup, ben comme d'habitude, hein, c'est toujours la lutte du bien contre le mal, les dragons, les démons, voilà, et le roi et les chevaliers, voilà quoi.
Voilà, et la princesse.
Il y a la princesse aussi, oui, bien que la princesse en fait soit métisse humain et démon en fait.
Ah ouais.
Et elle a rejeté le côté mauvais. Ça la rend d'autant plus intéressante. Elle a un physique de démon, mais elle a rejeté le côté démoniaque de la famille de son père et pour se tourner vers les chevaliers de la lumière.
J'ai eu peur quand elle a dit métisse, je m'attendais à moche, mais j'ai eu peur. Hein.
Elle ressemble à un monstre.
Elle ressemble à un monstre, oui. Oui, oui, oui. Elle est décrite comme ayant une queue fourchue, la peau violette, les yeux verrons, un vert, un violet. Enfin, bon, c'est. Elle est assez particulière. Hein.
Oui, c'est quoi ce personnage dans. Qui est bleu, là, dans ce film?
Les Schtroumpfs.
Mr. Manhattan.
Ouais, Gargamel fait partie des personnages fantastiques.
Ah mais oui, il y a un dragon dans les Schtroumpfs. Vous vous souvenez pas?
Ouais, ouais, comment il s'appelle?
Fafnir.
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 Ouais. Voilà, les Schtroumpfs, c'est aussi l'Heroic Fantasy. Hein.
Bon. Fumer trop de champignons.
Fafnir, non.
C'est, en fait, c'est le nom d'un dragon dans la mythologie suédoise, je crois. Et le dragon Fafnir.
C'est dans quel album de Schtroumpf, le numéro
4 le pays maudit.
Le pays maudit, exact. Et en fait, ben non, c'est pas les Schtroumpfs, c'est Johan et Pierre-Louis.
Ouais, c'est ouais. Johan et Pierre-Louis, mais il y a les Schtroumpfs qui interviennent.
Et il y a les Schtroumpfs qui apparaissent, ouais.
C'est
ouais.
Pas pareil.
Ouais, attention, pardon.
Est-ce que quand vous parlez des Néo-Zélandais, ça vous arrive, vous parlez les Smurfs, et puis vous dites ah non mais nous en Europe on n'appelle pas ça les, en France on n'appelle pas ça les Smurfs. Smurfs, et on dit oh les Schtroumpfs.
Ah non moi c'est les Schtroumpfs, hein, j'appelle jamais ça les Smurfs.
Et il y a deux secondes d'arrêt quoi. Comment t'appelles ça les Schtroumpfs?
Oui et ils sont incapables de répéter.
Ben non ils peuvent pas. J'ai ben non c'est comme ça qu'ils s'appellent.
Ils ont changé le titre parce qu'ils peuvent pas le prononcer. Sinon.
Chers auditeurs anglophones, sachez que en français on ne dit pas Smurf, on dit
Schtroumpf.
David c'est ton tour.
Et le Fafnir, c'est le Schtroumpf qui crache du. Le Schtroumpf qui Schtroumpf du Schtroumpf.
Le Schtroumpf qui Schtroumpf du Schtroumpf.
Le dragon qui crache du feu.
D'accord. Donc Laurent Vicomte, il y a au dessin, cycle 1 de. Je pourrais les précisions hein, sur Balade au bout du monde, c'est 1982. Donc c'est vraiment les années 80. 82, 83, 84. Mais il y a 5 cycles. Donc ça va jusqu'en 2012.
Ça part en
eau de. Ouais.
Le premier cycle est bien. Et puis
je suis d'accord. Le deuxième est un peu. Différent, mais pas trop mal, et c'est après ça, ouais. Oh là là, ça dégringole. Enfin bon.
Bon, allez.
On parlait de romans.
On revient à nos romans. Alors, celui-là, c'est un roman extrêmement célèbre. C'est un cycle, plutôt, de romans extrêmement célèbres, écrit par une femme, cette fois-ci, une américaine qui s'appelle Ursula Le Guin.
Oui, bravo.
Oui, Terre-mère. Terre-mère, le cycle de Terre-mère, qui compte, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes, dont les 4 premiers sont vraiment centrés sur les mêmes personnages et la même trame de roman. Le sorcier de Terre-mère, qui suit le personnage de Ged, les tombeaux d'Atouan qui suit les personnages de Ged et de Thénard, l'ultime rivage qui suit les personnages de Ged et Arène, et le dernier, Théanou, qui suit les personnages de Théanou et Thénard, sa maman adoptive, et Arène, qui va devenir le roi.
Moi, j'ai une question pour toi quand même. J'ai vendu ces bouquins-là, parce que j'étais bouquiniste pendant quelques années. Elle a beaucoup d'admirateurs et d'admiratrices, Ursula. Et elle vendait très bien à 10, 15, 20 ans, depuis toujours. Surtout cette série-là. Est-ce qu'il y a... pour toi, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de lire en français? On est quand même dans un pays anglophone. Ou est-ce que si on aime l'heroic fantasy... On peut le lire en anglais et si on veut lire le français, parce qu'on est francophone.
J'ai commencé personnellement à m'intéresser à l'heroic fantasy quand j'étais gamine, donc d'accord. Forcément donc, je lisais en français. Maintenant je lis en anglais parce que parce que je peux, mais je n'ai jamais essayé de relire les livres d'Ursula Le Guin en anglais. Je les ai lus en français. Ouais. Ils sont assez difficiles à lire et assez difficiles à suivre. C'est vraiment pour adultes. Hein. Ouais.
Oui, c'était dans le rayon fiction adulte. Oui, c'était pas chez les teenagers.
Elle est décédée l'année dernière, cette dame.
Oui.
Ouais. Elle a vraiment apporté énormément au niveau de la fantasy. Ces contes sont situés dans un monde imaginaire comme tout quoi en fait hein, mais voilà c'est un peu comme dans Tolkien, elle a fourni des cartes, elle a fourni des précisions sur les différents peuples qui peuplent l'archipel de Terre-mère. Dans les îles du Nord ils ont la peau claire et les cheveux blonds, dans les îles du Sud ils ont la peau sombre et les yeux noirs. C'est vraiment très très détaillé.
Oui, même en livre de poche, moi j'ai vu que les éditions anglaises ou américaines, les livres de poche, il y a les premiers paragraphes, c'est les cartes, les machins, ouais. Les descriptions de tout ça, ou en fin de bouquin, mais souvent en début de bouquin.
Ça peut être assez fastidieux à lire, mais si ça vous intéresse, franchement, c'est passionnant et c'est très prenant. Il y a 3 tomes du cycle de Terre-Mère, le sorcier de Terre-Mère, les tombeaux d'Atouan et Théanou, qui ont fait l'objet, qui ont servi de base à un film extraordinaire qui a été tourné au Japon. C'est un manga, en fait, de Gorō Miyazaki, je crois. Oui, c'est ça. C'est un film de Gorō Miyazaki qui s'appelle Les Contes de Terre-Mère, mais qui n'a rien à voir avec le livre Les Contes de Terre-Mère. C'est assez ça prête à confusion, parce que Ursula Le Guin a écrit un tome du cycle de Terre-Mère intitulé Les Contes de Terre-Mère. Maintenant, le film Les Contes de Terre-Mère n'est pas basé sur le livre du même nom. Il est basé sur d'autres livres du cycle de Terre-Mère. Donc c'est un peu confus. Par contre, c'est un très beau film d'animation à ne pas mettre devant les yeux des enfants, parce qu'il peut être assez effrayant. Là, vous êtes prévenus. Et notamment le sorcier.
C'est comme Gargamel, quoi.
Ouais, Gargamel, c'est de la gnognotte à côté. Hein.
C'est du genre.
Oui, oui. Ouais. Alors, si vous aimez les mangas, il y a Chronique de la guerre de Lodos, qui a été écrit par un japonais qui s'appelle Ryo Mizuno, et qui a fait l'objet aussi d'une série assez étendue, on va dire. D'animation. Pareil.
Dessin, livre et animé aussi.
Voilà, donc manga, bande dessinée et l'animation, le film animé. Alors, les chroniques de la guerre de Lodos, c'est. C'est alors là, pardon, je ne sais plus quoi dire.
On distrait Sarah.
On fait des bêtises.
Il y a
Steph, il me dit de parler près du micro. Puis quand je parle près du micro, comme j'ai une grosse voix, bah, ça fait tout bazarder les.
Ça monte dans le rouge. Voilà.
Ça va aller.
Bon, chronique de la guerre de Lodos. En gros, c'est l'histoire d'un groupe de personnes du sommet de mon cerveau, si je me souviens bien. Il y a quatre humains, une elfe et un nain. Et ils ont pour mission de contrecarrer les plans d'une sorcière qui cherche à faire revenir la déesse de la mort sur Terre ou quelque chose comme ça. Enfin, pas sur Terre, mais sur le monde de Lodos. Voilà.
Et à mon avis, ils gagnent à la fin.
Ah, mais ça, on va pas dire.
C'est toujours les bons qui gagnent, non ?
Bah, il vaut mieux. Hein. Ah non.
Il y a des bouquins, j'ai lu pas beaucoup. Hein. Ouais. J'ai un ou deux bouquins où c'est les méchants qui gagnent.
Oui, et aussi les gentils qui meurent début du film, ouais, on va dire, voilà, comme ça. Oui, ça arrive aussi.
C'est comme Game of Thrones, il est mort.
Oui. George Martin est connu pour tuer ses personnages principaux dès les premières scènes, donc.
Alors non, c'est pas vrai, ils sont pas tous morts dans Game of Thrones. Bah, beaucoup, hein.
Et comment ça peut être un personnage principal s'il meurt?
Alors attends, laisse-moi t'expliquer. Parce que si le personnage principal ne meurt pas, le reste de l'histoire ne peut pas se produire. Tout simplement.
Donc c'était un flashback, c'était un gros flashback. Non, c'est pas 5 séries pour à la fin dire ah oui, ça a commencé comme ça parce que le couillon il est mort.
C'est pas du tout un flashback.
C'était comme Dallas. JR, mais non, c'était pas JR, c'était comment il s'appelait, la série où il était pas mort là.
Dallas, c'est de l'heroic fantasy.
Ça devient difficile cette émission. Bon, on se fait une autre musique.
Bobby, voilà, c'est ça. Bobby n'était pas mort.
Allez, on va se jouer. Qu'est-ce qu'on va se jouer?
C'est toi qui choisis.
On va se la jouer déjà.
On va se la jouer. Bon, allez, on se continue la fête dans le studio.
Ouais.
Téléphone, ouais. Un autre monde. We'll be right back. fête d'étudiante.
Rock'n'roll à la française.
Ouais, du bon rock à la française. Bon, je sais, Virginie, elle n'est pas trop fan.
Mais... C'est la voix qu'elle n'aime pas.
Non, mais les voix, oui, graveleuses, un peu comme ça, je suis pas fan, mais j'aime bien la musique, hein. Je trouve que la musique est très très bien, mais ouais, la voix... Après, on peut reconnaître le talent et pas aimer. Hein.
C'est pas faux, ça.
C'est pas faux. Qui c'est qui disait c'est... Ah oui.
Mais oui, mais c'est l'émission qu'on avait fait ensemble sur Kaamelott. C'est
oui,
pas
c'est
faux.
Ça, c'est pas faux.
Et c'est, il fait tout un truc, c'est...
Perceval.
Ouais, si ouais. Vous regardez un peu Kaamelott, non?
Pas du tout.
Pas du tout.
Moi,
et
je
donc,
rien,
Perceval c'est... qui...
tu regardes les courbes.
Qui parle et... ouais, et non, comment il s'appelle Perceval et l'autre, comment il s'appelle
Caradoc.
Caradoc. Et donc, il se parle et puis
non,
il Caradoc. Dit... Et donc, Perceval dit à Caradoc, quand tu sais pas... ou non, c'est Caradoc qui dit, moi, quand je sais pas le mot ou je comprends pas ce qu'on me dit, je fais, c'est pas faux. Et donc, il se retrouve dans une conversation et puis il dit des trucs. Et à chaque fois qu'il comprend pas le mot, il fait, c'est pas faux. C'est pas faux. Et maintenant, il se fait choper. Puis il dit, mais vous comprenez ce que je dis là? C'est pas faux. Voilà. Parenthèse.
Et Kaamelott, c'est une série française?
Kaamelott, c'est une série française, oui.
Et c'est sur
C'était sur M6. À l'époque. Mais là, oui, Virginie nous a appris qu'ils vont tourner une série.
Ils devaient tourner un film, oui. Ouais. Et je ne sais pas où ça en est. J'ai vu j'étais assez étonnée. Comment il s'appelle, l'acteur principal?
Alexandre Astier.
Oui, Alexandre Astier, je l'ai vu sur scène. Il avait fait un truc complètement différent qui sortait un peu du domaine de Kaamelott où il jouait, je ne sais pas si c'est Chopin ou en tout cas un pianiste ou un joueur de clavecin, un professeur de clavecin, un truc comme ça. Il joue un rôle complètement différent et je l'ai trouvé assez assez mauvais finalement. Je le trouvais pas du tout. J'ai l'impression qu'il avait tellement été bon dans Kaamelott que sorti de ce rôle, il avait un peu du mal à se...
C'est un peu comme Jean-Claude Van Damme, quoi.
Il est sorti du piano ou du violoncelle, Jean-Claude Van Damme. Il n'est pas bon.
Non, mais une fois, il a fait un film très différent de ce qu'il faisait d'habitude. Et puis, il avait interviewé. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais vu lors du journal télévisé. Il l'interviewait. Et puis, bon, je crois que ça a été un flop monumental.
Même ses films naissants, c'est tous des flops monumentaux.
Il paraît qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de succès.
Mais oui, énormément de succès. Hein. Mais non, mais il est un peu. Oui, c'est le martial artiste, je sais pas comment on dit, l'artiste, comment on dit en français l'art martiaux, l'artiste martial, je sais même pas comment
bizarre,
on dit.
Ouais.
Qui est très reconnu aux États-Unis parce qu'il y en a pas beaucoup en Europe qui font dans les arts martiaux. Donc lui, c'est un des rares reconnus en Europe parce qu'en général, ça venait de l'Asie, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est connu.
Quand on dit qu'on est belge, alors il y a différentes réactions. Il y a les gens qui disent « Ah, Jean-Claude Van Damme !» Alors là, déjà, on sait qu'on va pas pouvoir s'entendre. Puis il y a ceux qui parlent du chocolat et de la bière. Et alors, de temps en temps, il y a des trucs complètement random, comme ça. Il nous parle d'un petit bled des Ardennes qu'on connaît même pas. Mais Jean-Claude Van Damme,
ils font le parcours des cimetières 14-18, donc si tu connais pas le village où il y a la tombe 2554 du soldat inconnu australien, et ben t'es foutu.
Et oncle qui est voilà.
Jean-Claude Van Damme, c'est quand même un signe quoi.
Mais oui, il avait fait. Mais vous savez, il y avait un bouquin qui était sorti dans les années 90 et ça s'appelait le dictionnaire de Jean-Claude Van Damme ou un truc comme ça.
Ah, c'était fabuleux.
Et ils expliquaient, comme ils faisaient beaucoup d'anglicisme, qu'ils disaient « be aware ».
Il est aware.
Et « be aware ». Il avait fait cette émission de télé où il était tellement excité ce jour-là, on sait pas trop, il y avait eu des rumeurs comme qu'il était à fond à la coke, voilà, et qu'il avait pris beaucoup de coke ce jour-là, et donc il avait fait énormément de, ouais, il y avait ce truc « be aware, be aware ». Et ils avaient sorti un bouquin, c'était le dictionnaire de Jean-Claude Van Damme. Et ils expliquaient toutes les expressions.
Il y avait un DJ aussi qui s'était amusé à récupérer les expressions dans cette interview et il en avait fait un morceau de musique. C'est un morceau d'anthologie, le truc quoi.
Mais cette interview,
on va la passer.
Ah, mais ouais, non, il faut qu'on la retrouve.
Il avait pété un câble, je sais pas, sur Drucker ou un truc comme ça, il avait pété un câble.
Loin du Heroic Fantasy. Là.
Oui, alors.
Parce que Jean-Claude Van Damme, c'est quand même fantasy.
Ouais, j'aurais tendance à dire bon, Jean-Claude Van Damme, c'est quand même fantasy.
On peut trouver un lien, voilà. Jean-Claude Van Damme, en fait, c'est la génération d'acteurs du genre Stallone, Schwarzenegger. Schwarzenegger a fait Conan le Barbare et nous revoilà dans la fantasy. Voilà.
Magnifique. Ta-da. Et la transition.
La transition extraordinaire. Alors, en parlant, là, c'est pas du tout Conan le Barbare, mais c'est un personnage que, alors là, j'adore personnellement. Ça s'appelle, le personnage s'appelle Druss. Et il a ce surnom de Druss la légende. C'est un personnage qui a été créé par, il est américain si je me trompe pas, il s'appelle David Gemmell. Et il a écrit sur ce personnage, il a commencé en fait à écrire quand il était malade. Et il a laissé tomber quand il est guéri. Et plusieurs années plus tard, il est revenu à son manuscrit. Et il l'a finalement publié sous le nom de Légende. Et Légende, c'est l'histoire d'une forteresse assiégée, un peu comme Fort Alamo, quoi, en fait, qui se retrouve complètement encerclée par les ennemis. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir, mais malgré tout, ils vont combattre jusqu'au bout. Et ils vont tous tomber, en fait. Et le personnage principal est une espèce de colosse monumental qui ne se déplace jamais sans sa hache énorme, qui s'appelle Snaga, la hache. En fait, la hache est enchantée et elle ne rate jamais sa cible. Alors voilà, c'est pas non plus quelque chose à lire aux enfants avant l'heure du coucher.
C'est un peu comme Thor.
Voilà, un peu comme... un peu Druss, pas Druss.
Et c'est pas en BD, c'est pas en film.
C'est pas en BD, c'est pas en film. C'est une hérésie que ça n'ait jamais été tourné en film.
Peut-être que je l'ai lu alors, mais tu vois, ça me rappelle quelque chose.
Et donc dans Légende, dans cette histoire là, c'est le personnage principal, donc Druss, est déjà un vieil homme, il a une bonne soixantaine d'années passées, et il est là voilà pour son dernier combat, quoi, en fait. Et les romans suivants, en fait, s'attachent de nouveau au personnage de Druss, mais dans c'est une préquelle, en fait. Ce sont des préquelles quand il était beaucoup plus jeune, et c'est plutôt l'histoire de comment est-ce qu'il a perdu sa femme, en fait, qui a été enlevée par des pirates, vendue comme esclave, voilà. Et il va parcourir le monde pour la retrouver. Et quand il va la retrouver, eh ben, je vous laisse découvrir.
Mais c'est une claque et à planter là.
Non, pas du tout. Alors là. Mais vous détruisez tout, là, les garçons.
Petit quiz. Conan le Barbare, c'est quelle année, d'après vous? Pas le film, hein.
Le livre, je ne sais pas.
Les années 50.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
30, même.
1932.
Waouh.
Ah, voilà.
Bon, merci à monsieur Wiki Machin.
Oui, qui c'est déjà qui a écrit Conan le Barbare? Je me souviens plus.
Eh ben, il s'appelle l'Américain Robert E. Howard.
C'est ça. Ah. Ouais.
Dans un magazine qui s'appelait Weird Tales.
J'aimerais beaucoup que ces films soient refaits, franchement, parce qu'ils ont mal vieilli, je trouve. J'étais très fan quand j'étais gamine.
Je crois qu'ils ont, c'est peut-être sur Netflix ou je sais pas où, Red Sonia, qui est l'une des filles qui c'est une rousse qui se bat.
Ah,
contre
Sonia Larousse, oui.
Sonia Larousse. Oui. Et je crois qu'il y a des épisodes, soit sur Netflix, soit où c'est en train de se tourner, ou enfin, j'ai entendu parler, ou c'est peut-être sur Amazon, ou c'est l'une des autres trucs en ligne. Mais ouais, je crois qu'ils sont en train de faire Red Sonia en téléfilm, série, je sais pas.
Peut-être, ouais. Je sais, ils ont refait Conan le Barbare il y a quelques années avec, je crois que c'était Jason Momoa dans le rôle de Conan.
Qui était dans
Game of Thrones. Ouais, ouais. C'était assez décevant, je trouve. Le Conan le Barbare.
Juste là en passant, je viens de me souvenir, Highlander. Ça fait partie des fantastiques.
Ah oui.
Exact.
Avec Christophe Lambert, donc acteur français. Et ça a été, oui, et ça a été refait il n'y a pas très très longtemps. Il y a une version américaine. Il y a Highlander. Non, alors donc ça a été refait en 86. Donc il y a un film américain qui a été refait. Mais il y avait cette franchise là, franchise qui avait été fait, franchise de Highlander avec je sais plus combien de films. Je recherche 80...
Highlander, je crois que c'était 4 films. En tout.
Oui, et il y avait eu des BD avant, etc.
Bon, il nous reste 2 minutes.
Attends, c'est dire au revoir, à la prochaine.
Ouais.
Et puis, passez un bon hiver et tout, les filles et les garçons.
Merci. Ouais. Quelqu'un va à la neige?
Pas tout de suite.
Peut-être.
Un mois doux, quoi. Il y aura vraiment de la neige.
Bon. Allez, on va se passer une petite musique. Bonne soirée à tous. On va se passer une petite musique pour mettre du bonheur dans la vie de tout le monde. Ça s'appelle Tout le bonheur du monde. Au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Ciao.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de caves jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. We'll be right back.